bonjour à tous, bon dimanche. Nous sommes au 10e dimanche après la Pentecôte, mais nous solennisons aujourd'hui la fête de la Transfiguration à cause de l'importance de cette fête dans la vie chrétienne, qui est une fête très importante, puisque Jésus se montre vraiment sous son vrai visage glorieux à ses apôtres qui le suivent sur une haute montagne, dont on sait aujourd'hui à peu près où c'est, évidemment, grâce aux indications de certains mystiques comme Maria Valtorta, qui sont toujours décriés, puisqu'aujourd'hui, il y a une sorte de convenance dans la conférence épiscopale de France. On dit qu'il ne faut plus écouter les mystiques et relativiser terriblement ce qu'ils disent, alors qu'aujourd'hui, la fête de la Transfiguration nous montre quand même l'apparition de Moïse et d'Élie. Donc les prophètes ont toujours été accompagnés, l'histoire du salut. Autrefois, certainement, dans l'Ancien Testament, il y a 40 prophéties annoncent le Christ d'une manière étonnante. Et lorsque Jésus montre sa gloire à ses disciples, tout cela pour les fortifier leur foi, parce que Jésus leur annonce en même temps, quand il descend de cette montagne, il annonce à Pierre, Jacques et Jean qu'il va être crucifié, il leur dit qu'il va mourir et qu'il ressuscitera le troisième jour. Donc ils sont très affligés au retour de cette annonce de sa mort et de sa résurrection. Évidemment, tout leur amour pour le Christ est mis en branle d'une manière étonnante. Donc Jésus leur montre ce qu'il est vraiment, dans cette gloire qu'ils peuvent apercevoir, et évidemment c'est un événement très important qui signale le prophétisme, à cause de ce que Moïse apparaît comme symbolisant la loi, comme dans notre Église il y a l'enseignement de l'Église depuis 2000 ans, c'est-à-dire le magistère de l'Église qui ne peut pas être contourné, et les prophètes qui accompagnent dans la vie de sainteté des grands saints qui ont toujours fait des prophéties ou en tout cas ont analysé les temps pour remettre souvent les pendules à l'heure dans une église qui parfois humainement suivait des voies qui n'étaient pas celles que Dieu voulait. Donc Jésus envoie des saints qui ont toujours rectifié le tir. Aujourd'hui, on voit qu'on condamne certaines apparitions et qu'on recommande de s'en tenir au Saint-Évangile et de ne pas prêter trop d'attention à toutes les prophéties, à cause de ce que les prophéties nous avertissent, que nous allons passer des temps difficiles et que de nombreux prophètes, même des apparitions importantes, comme la Sainte Vierge est apparue près de 2000 fois en Europe et dans le monde depuis une centaine d'années, toutes ces apparitions, évidemment, annoncent que nous devons être forts dans la foi, et la Sainte Vierge et les quelques saints qui ont fait ces prophéties faisaient des miracles pour fortifier la foi des fidèles, afin que l'on voit que le Christ, s'il s'est montré à ses apôtres pour fortifier leur foi, il y a toujours une aide du ciel à travers les mystiques et les saints dans les miracles qu'ils font pour fortifier notre foi. Ils ne font pas les thaumaturges pour faire les thaumaturges, ils font les thaumaturges pour que, à chaque génération, dans l'histoire de la chrétienté et l'histoire de l'Église, il y a eu ces saints qui se sont montrés dans la gloire de Dieu à travers les miracles qu'ils ont faits. Donc les listes seraient longues, les Padres Pio, les grands saints, Saint Gerbel du Liban, dont on constate aujourd'hui qu'il aurait fait à peu près 3000 miracles qui sont répertoriés. Oui, ces saints, ils vivent en Dieu et ils font des prophéties pour notre temps, les prophéties d'un temps qui est difficile aujourd'hui. Et d'ailleurs, le Seigneur lui-même a laissé une trace de sa gloire, cette gloire auquel fait référence, qui est un témoignage évidemment des saints apôtres et qui est très important dans le Saint-Évangile. Cette lumière dont il est dit que le Christ, son visage est devenu très lumineux, au point qu'il était à peine regardable, et que malgré tout, malgré cette puissance solaire qu'avait le Christ au moment où les apôtres, hallucinés, tout d'un coup sont tellement surpris de cette vision qu'ils tombent à terre, évidemment, en craignant ce qui se passe. Et le Christ, même ses vêtements sont contaminés par sa gloire, c'est-à-dire que même la nature reçoit la gloire de Dieu à travers ses vêtements, on dit qu'ils sont plus blancs que la neige. Et qu'est-ce que nous avons encore aujourd'hui, encore un témoignage qui est un peu analogue, c'est le Saint-Suaire de Turin. Alors, beaucoup d'écrits, C'est l'artefact le plus étudié au monde, certainement aujourd'hui, mais la science s'épuise à essayer de prouver que le sensuaire n'est pas bon, mais on ne peut pas expliquer comment un linge si superficiellement est brûlé au point de donner une image qu'on peut voir aujourd'hui, cette image si noble de Jésus crucifié et mort dans son tombeau, et que cette lumière qui surgit dans le sensuaire de Turin, qui nous est laissée comme un témoignage par la volonté de Dieu, parce que 20 siècles d'histoire, le moindre linge aujourd'hui ne dure pas si longtemps, et on a quand même ce témoignage étonnant du sensuaire de Turin, où on voit qu'il y a eu une explosion lumineuse dans le linge qui a été brûlé sur quelques microns, et que c'est le signe de la résurrection qui nous est donnée, avec ce miracle étonnant de Jésus-Christ qui montre en même temps toutes ses plaies à la face du monde, ce qu'il prédit aux apôtres quand il leur montre sa gloire dans la transfiguration, et il nous le montre encore aujourd'hui dans le sanctuaire. Il prédit sa mort et sa résurrection, et nous avons le témoignage encore aujourd'hui pour nous chrétiens de la mort et de la résurrection du Christ dans le sanctuaire de Turin. Nous avons un homme mort crucifié qui a qui porte toutes les caractéristiques d'une crucifixion, de couronnement d'épines, de la flagellation et de surtout de cette horrible crucifixion. Nous avons le témoignage de sa mort et nous avons le témoignage de sa résurrection dans cette lumière qui illumine ce tissu qui dure pendant 2000 ans pour qu'on puisse aujourd'hui l'étudier scientifiquement à l'époque de la science. La science est un vrai problème parce que la science aujourd'hui, elle peut aller dans le bon sens, elle peut aller dans le mauvais sens, mais là, on n'arrive pas à épuiser et à expliquer comment ce linge a pu laisser le visage du Christ, puisque lorsque Niépce fait la première photo au XIXe siècle du Christ, on constate que c'est un négatif, donc on ne peut pas imaginer, ni au Moyen-Âge, ni avant, que l'on puisse faire une image où il n'y a pas une trace de pinceau et avec et aucun pigment. On ne peut pas imaginer qu'on puisse faire un négatif. Donc tous les faux sensuaires qui ont existé, il y en a eu, étaient tous des positifs faits de manière maladroite, qui a été démontré tout de suite que c'était des artefacts qui n'étaient pas des artefacts portant vraiment la résurrection du Christ. Alors que là, on a quand même ce témoignage. Donc pour nous chrétiens, nous pouvons croire vraiment ce que disent les apôtres quand ils annoncent qu'ils ont vu cette gloire étonnante. La présence d'Élie et de Moïse est elle-même très étonnante, mais pas tant que ça, parce que c'est, je le disais tout à l'heure, c'est l'annonce de ce que la loi qui a été donnée à Moïse était la loi qui devait gouverner le monde de ceux qui voulaient trouver Dieu. Et le Christ nous faisant la révélation que nous sommes des enfants de Dieu, que nous ne sommes pas rien du tout, mais chacun de nous est un enfant de Dieu qui, par la force et l'amour du Christ, Dieu nous invite donc à cela, et Moïse est là pour proclamer qu'il y a une loi dans la vie humaine, que si on la suit, on peut trouver le chemin de Dieu qui nous a créés. Donc ça explique tout le sens de la vie. Donc Moïse est très important et Élie est très important. Élie, c'est le prophétisme, c'est-à-dire nous ne pouvons pas occulter que le Christ a été annoncé, que le Christ lui-même a fait des prophéties, puisque le Seigneur donne des prophéties même sur la fin des temps. Il fait des prophéties aussi sur Jérusalem qui va être détruite à cause de ces pharisiens qui n'ont pas reconnu Jésus dans l'évangile d'aujourd'hui, d'ailleurs précisément dans le dixième dimanche que nous aurions dû lire aussi. Jésus pleure sur Jérusalem, il regarde à la ville de l'extérieur et il pleura sur Jérusalem qui n'avait pas su reconnaître à temps le salut qui lui avait été apporté par le Messie, le Christ, notre Seigneur Jésus-Christ. Donc voyez, le sens prophétique est très important, et je le dis encore, nous devons, il faut certainement avoir un discernement sur les prophéties, parce qu'il y a des fausses prophéties aussi. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous, dit le Seigneur, déguisés en mouton, mais ce sont des loups. Il faut faire très attention, donc le discernement de l'Église. Mais quand l'Église elle-même se met ouvertement à demander d'amoindrir la parole prophétique quand elle se présente, parce que les critères annoncent des temps difficiles, eh bien, c'est ce qu'ont fait les pharisiens avec Jésus. Hein, quand Jésus avait annoncé aux pharisiens qu'il ne resterait pas pierre sur pierre du temple de Jérusalem, ils ont dit, ben oui, il ne faut pas tenir compte de ce faux prophète, de ce faux messie, et donc ils le crucifièrent et Jésus ressuscita. Nous avons aujourd'hui ce parallèle étonnant et les apôtres qui hallucinent, parce que le moment où Dieu parle lui-même avec sa voix, ça fait référence, il tombe à terre évidemment, terrorisé, entendre la voix de Dieu pour des juifs de base, enfin des juifs orthodoxes qui ont été entendus tous les ans raconter l'affaire de Moïse sur le Sinaï, quand Dieu lui parle avec sa voix, évidemment, il lui annonce ce qu'il est, je suis celui qui suis. Quand le Père éternel se met à parler en présence du Christ transfiguré, vous imaginez, pour des hommes normaux, c'est effrayant d'entendre la voix de Dieu qui remplit toute l'ambiance de cette manifestation du Christ dans sa gloire. Donc l'affaire est une affaire très importante, parce que c'est là que Jésus, on se demande pourquoi Jésus montre sa gloire. Oui, il montre sa gloire, évidemment, parce qu'ils le suivent, et bon, il fait des tas de miracles bien avant la transfiguration, mais il va surtout, en redescendant, leur annoncer sa mort et sa résurrection, et c'est donc pour les fortifier. Et c'est également pour nous fortifier que le Seigneur nous a laissé, je le dis, le Saint-Suaire de Turin, la mort du Christ nous est manifestée dans ce linge, et la gloire du Christ est manifestée dans cette lumière qui donne le visage du Christ dans ce Saint-Suaire qui nous montre bien pour nous que notre foi est fondée et que le Seigneur donne des traces de cela. Pourquoi le Seigneur nous a laissé le Saint-Suaire pendant 2000 ans? Parce qu'à la fin des temps, à l'époque où tout est remis en question et que des prophètes nous ont annoncé le Seigneur lui-même une grande apostasie en nous disant qu'à la fin des temps, la foi du plus grand nombre se refroidira, ce que nous voyons dans le monde, eh bien le Seigneur donne quand même des images qui sont des images qui laissent la trace de sa mort et de sa résurrection, comme les apôtres ont eu cela au moment de la transfiguration. La gloire du Christ, et après, une fois fortifié par cette gloire, le Seigneur, Saint Jean se met à pleurer, d'ailleurs, d'après, il faut lire Maria Valtorta pour ça, pour comprendre ce qui se passe quand ils descendent et que Jésus annonce sa mort et sa résurrection. Ils font surtout attention à la mort du Christ, où il annonce qu'il va souffrir et qu'il va être livré aux ennemis de ceux qui ne veulent pas le reconnaître. Et donc Jésus annonce cette souffrance, Saint Jean se met à pleurer et Jésus le fortifie en lui disant « Je t'ai montré qui je suis vraiment, donc je te l'annonce, ma mort certainement sera une épreuve pour vous, mais je ressusciterai le troisième jour » et il annonce sa résurrection. Effectivement, c'est ce qui va arriver. Vous voyez, c'est très important, le ciel ne fait pas des choses étonnantes sans qu'elles aient une raison profonde. La raison profonde pour la fortification des apôtres à cette époque, et la fortification aujourd'hui qui nous est donnée dans l'image du Saint-Suaire, de la mort et de la résurrection du Christ, évidemment, ça fait appel à la foi. On croit les apôtres parce qu'on croit l'Évangile et qu'on croit ce qu'ils racontent. Mais aujourd'hui, nous devons nous tourner vers ces messages qui nous sont donnés par la volonté de Dieu et nous devons contempler ce qui nous est donné. Pourquoi ? Pas pour faire des prodiges uniquement, pour fortifier notre foi, fortifier la foi des fidèles. Donc quand nous avons l'image du Christ dans le Saint-Suaire, sachons que les temps sont difficiles, qu'il a fallu le XXe siècle pour qu'on puisse comprendre comme positif ce qui était dans ce Saint-Suaire était un négatif. Il a fallu attendre l'arrivée de la science. Le développement de la science n'arrive pas à puiser l'explication de ce qui s'est passé dans ce linge brûlé par un éclair lumineux et qui ne pas brûler tout le tissu mais simplement en surface pour laisser l'image du Christ. C'est une fortification qui est faite pour nous pour que nous n'approuvions pas la résurrection. Rien ne prouve la résurrection, c'est une question de foi. Mais le Seigneur envoie son petit message à notre époque aussi, pour dire, voyez, je me suis montré aux apôtres, mort et résurrection annoncée derrière. Et aujourd'hui, je vous le dis encore, malgré la difficulté des temps, l'athéisme qui a envahi le monde, l'apostasie que l'on trouve même chez tant de chrétiens qui sont devenus, le cardinal Sarah l'a redit l'autre jour à Sainte-Anne-d'Auray, faites attention de ne pas être des chrétiens de surface et d'être vraiment des chrétiens, c'est-à-dire la foi certainement, mais une activité chrétienne. Ne vous contentez pas d'être de ce chrétien comme ça qui se disent chrétiens mais qui ne vivent pas chrétiennement. Donc obtenez de Dieu dans la prière le discernement des choses de Dieu afin que vous respectiez à la fois Moïse, c'est-à-dire la loi de Dieu qui a été donnée aujourd'hui à l'Église, c'est-à-dire respecter l'enseignement de l'Église qui ne peut pas être battu en brèche aujourd'hui comme ça peut se faire, on le voit dans les nouvelles dogmatiques qui s'approchent parfois, et les nouvelles dogmatiques et les nouvelles disciplines aussi qui sont parfois appelées des vœux de cet humanisme qui contamine aujourd'hui le christianisme. Je lisais hier un passage de Soloviev, qui n'a pas été canonisé par l'Église orthodoxe, mais qui est un saint personnage, un saint écrivain, et qui dit, déjà en 1900, dont il meurt, il écrit un petit ouvrage, ce qui est son dernier ouvrage, qui est très court, « Mon récit de l'Antéchrist », donc « La route de l'Antéchrist », et en quelques pages, il dit, il voit déjà en 1900, c'est drôle, cette période a été une période très étonnante, avec le grand changement qui allait venir avec la science, et quelques personnages, comme Soloviev, qui était un saint homme, dit « Vous verrez que le christianisme risque d'être contaminé par l'humanisme et que il dit en substance évidemment vous verrez que on essaiera d'éliminer le Christ, cause il parle de maçonnerie évidemment et des forces qui luttent contre le christianisme dans notre civilisation depuis longtemps et avec la révolution il dit qui s'est opérée en France avec les écrits de Voltaire, de Rousseau et de Nietzsche qui est un contemporain de lui-même. Il dit Dieu, on évacuera Dieu petit à petit, on va tomber à cause de Descartes dans le subjectivisme, c'est-à-dire l'homme est la mesure de toute chose, je pense, donc je suis, donc c'est moi qui construis Dieu dans ma vie et je lui donne son sens. Et dit Voltaire et Rousseau que c'est le sentimentalisme, c'est-à-dire Rousseau abandonne ses enfants, mais il dit quand même on a le droit d'abandonner ses enfants s'ils ne conviennent plus, donc voilà, chacun, c'est l'origine du wokisme qui s'est développé tellement aujourd'hui. Et Nietzsche qui prêche la mort de Dieu, qui dit l'homme, Dieu est mort. Et donc, c'est la volonté qui compte, et c'est le plus fort qui l'emporte. Voilà l'origine du nazisme et du communisme en particulier, c'est-à-dire installer une sorte d'humanisme qui va donner la prospérité aux hommes, comme l'a fait le communisme, évidemment, immédiatement après, en 1917. Donc, Soloviev voit ça arriver, et il dit, on installera des miettes du christianisme avec un humanisme qui, lui, deviendra meurtrier. On l'a connu, 30 millions de morts dans les pays de l'Est, vous voyez, donc aujourd'hui, c'est une même chose qui nous est proposée, une forme d'humanisme, le Christ doit être étouffé, et on veut nous faire manger les miettes du christianisme dans un humanisme sans Dieu, voilà ce qu'on vit, c'est tout, c'est là. Et le Christ nous a dit ça au moment de la grande apostasie, le retour du peuple juif dans son pays s'est prophétisé aussi, et tout est en place. Et nous, chrétiens, qu'est-ce qui nous est donné ? Ben, la parole des évangiles, notre foi chrétienne, la fidélité à ce que nos parents nous ont appris, et nos grands-parents et nos ancêtres depuis 2000 ans, c'est-à-dire la survivance de la foi chrétienne, aussi la conformité aux sacrements de l'Église qui sont donnés, qui ont été tellement battus en brèche et tellement bousculés d'une certaine manière depuis une cinquantaine d'années, et nous est donnée aussi la foi des miracles qui nous sont donnés, et le sanctuaire par rapport à la transfiguration du Christ, est ce qui nous est donné à nous, non pas comme une miette, mais comme une vérité que nous devons contempler. Alors le Christ ne prouve pas sa résurrection, mais il nous donne à réfléchir sur ce qui nous est donné par le Seigneur lui-même, c'est-à-dire des messages qui nous sont donnés dans cette image du sanctuaire. ma mort et ma résurrection. Voyez, ça vient jusqu'à vous depuis 2000 ans. Donc le fil n'est pas coupé. Et nous ne devons pas couper le fil de nos ancêtres, de la fidélité, à la fois de l'Église bimillénaire qui a transmis l'enseignement du Christ, qui est resté fidèle, et cette Église qui est une Église du miracle. Parce que c'est par les miracles que nous savons que le Christ a vraiment été celui que les apôtres ont vu au mont Tabor quand il est transfiguré. Ses vêtements sont devenus blancs comme la neige parce que ça annonce que la nature elle-même sera renouvelée dans le Christ. Quand le Seigneur dit « toutes choses seront renouvelées », évidemment, une terre nouvelle et des cieux nouveaux, donc nous aurons un changement radical de ce que la conséquence du péché d'Adam et Ève qui sera renouvelée dans le Christ quand le Seigneur viendra. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, non, que ton règne arrive. C'est ça qu'on a dit autrefois, et tout d'un coup, on change des paroles très importantes. Le Adveniat Regnum Tuum, c'est que ton règne arrive, et non pas simplement qui vienne, parce que de toute façon, il vient. Donc nous devons nous prier pour l'avènement de Jésus-Christ, en sachant que nous sommes toujours dans les épreuves du monde, et que les apôtres eux-mêmes, après avoir vu la gloire du Christ et l'annonce de sa résurrection, le Seigneur leur a dit, ceux qui me suivent ne seront pas traités mieux, et on voit que tous les apôtres sont morts pour prêcher la résurrection, la mort et la résurrection du Christ, ils sont tous morts martyrs. Et voyez, c'est la preuve de la bonne volonté, de la force qui habitait les apôtres jusqu'à la fin, pour continuer de faire le démarrage d'une Église qui a traversé les siècles, et qu'aujourd'hui, dont aujourd'hui on essaie d'étouffer les paroles qu'elle porte dans le Saint-Évangile et dans le Magistère, et la tradition de l'Église à travers l'histoire de cette Église et de tous ses saints qui véhiculent les miracles du Christ encore aujourd'hui jusqu'à ce que le Christ revienne. Donc, vivons dans la foi. Mais avec Soloviev, demandons-nous si nous sommes dans le travail que le Seigneur réclame, de ne pas être simplement d'étiquette, des vins d'étiquette, le vin chrétien sur l'étiquette, et sans que le vin soit devenu du vinaigre, ou qu'il soit simplement pas le bon vin qu'on annonce sur l'étiquette. Donc restons fidèles au Christ, nous aurons des épreuves, et nous vivons tous les épreuves de la vie. Une vie chrétienne sans épreuves, ça n'existe pas. Le Seigneur ne nous a pas dit qu'il allait nous faire le paradis sur terre, mais il nous a promis le salut et l'éternité, une autre dimension à laquelle nous aspirons, et que nous devons traverser l'espace-temps où chacun de nous a une mission voulue par Dieu. Le moindre des chrétiens qui surgit dans le monde par la volonté de Dieu, ce que nous devons faire sans arrêt tous les matins lorsque nous adressons au Père éternel, celui qui fait danser les mondes, les astres et les saisons, il fait aussi danser les cellules de notre cerveau qui nous amènent à la conscience de Dieu et au sens de la vie. Donc remercions le Père éternel de toute chacune de nos vies, et que chacun de nous est un être très précieux aux yeux de Dieu, qui a voulu chacun de nous en l'amenant à l'existence, en lui révélant par la parole du Christ le sens de la vie et pourquoi nous étions là, pourquoi le salut nous est assuré par le Christ, non pas simplement le Christ glorieux qui ressuscite, mais comme il le dit aux apôtres, le Christ souffrant aussi qui va passer par le bois de la croix. Et n'oublions pas que dans notre sainte liturgie, nos liturgies ne peuvent pas être que des espaces comme des ONG sympathiques où tout le monde est heureux de communier ensemble et que le Christ est parmi nous. La messe est un saint sacrifice de la messe. N'oublions pas que la gloire du Christ, elle est passée par la mort du Christ, c'est-à-dire par la souffrance du Christ sur la croix, et que c'est un saint sacrifice. Si nous oublions ça, nous sommes dans une autre Église qui n'est pas tout à fait celle du Christ. Donc restons fidèles. Merci. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous prions pour la famille de Guy de Mayenne aujourd'hui, pour les vivants et les défunts de cette famille. Merci beaucoup.